le futur entrepreneur africain, épisode 10. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu te portes bien et que tu as passé une excellente semaine et week-end aussi, je dois dire, parce que là, nous commençons une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, je dois juste te dire que pendant que cette semaine commence, il est important pour toi d'être en forme, d'être en santé et aussi de prendre tes précautions par rapport à ce virus-là qui veut essayer juste d'effrayer le monde entier. Et en fait, pour moi, j'ai eu à suivre aujourd'hui une émission où on parlait encore de ce virus-là. Et je me rends juste compte que, en fait, tout ça, ce ne sont que les médias qui essayent de vraiment effrayer les gens. Parce que s'il faut qu'on considère, depuis tant d'années, nous savons que pour ceux qui sont en Europe, là, entre la période d'hiver jusqu'au printemps, c'est une période où, généralement, il y a tellement de grippe. Et pour moi, c'est juste normal en fait que dans cette période-là, j'attrape généralement un peu de grippe et peut-être je vais commencer à tousser, je vais me coucher. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un tousse un peu comme ça, on parle souvent de quarantaine. Dans mon travail, là où je travaille par exemple, là-bas, c'est tous les jours, on actualise les informations par rapport aux précautions qu'on doit prendre. Si c'est que tu as juste un semblant de tout, on ne veut même pas que tu viennes, quoi, tu vois. Et les gens commencent à se méfier des autres. On écrit partout, on nous interdit de nous saluer les uns avec les autres. Je me dis donc que, OK, on le fait avec le coronavirus, mais qu'en a-t-il des maladies plus graves que ça? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des maladies plus graves que ça avec lesquelles on vit nos quotidiens chaque jour. Mais c'est comme si ce virus, moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les médias veulent juste nous faire un peu, veulent nous effrayer, en fait, tu vois. Et pour moi, je pense que prends tes précautions, mais ne te laisse pas abattre peut-être par cette maladie, commencer à te méfier des gens. C'est important que tu gardes toujours tes relations avec ceux que tu as, ceux que tu connais, mais ne commence juste pas à te méfier de quelqu'un dès qu'il commence à tousser, parce que moi, c'est ce que je vois. En tout cas, je le vois dans mon entourage ces derniers temps. Dès que quelqu'un tousse, même dans le train, tout le monde quitte l'endroit et va s'asseoir ailleurs, quoi. Puisqu'on ne sait plus qui est qui. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu l'opportunité, la semaine passée, de rencontrer une jeune dame du nom de Jocelyne Kiambi. Elle est originaire de l'Angola et elle vit en Suisse. Et Jocelyne est coach en communication digitale, consultante et entrepreneur. Et elle a un parcours vraiment intéressant et inspirant. Et on a eu l'occasion d'avoir une conversation ensemble où on a pu tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus et beaucoup d'informations riches qui vont aussi t'inspirer d'ailleurs. Et Jocelyne, son histoire commence simplement en 2009 où elle réfléchit par rapport à revenir aux tresses naturelles ou aux cheveux naturels. Et c'est comme ça qu'elle commence à faire ses recherches sur le net et elle tombe sur ce qu'on appelle des blogs. Elle tombe sur des personnes qui écrivent sur ce genre de sujet. Et c'est comme ça que cela l'intéresse et elle commence aussi à créer du contenu. Alors, pendant qu'elle crée du contenu, elle trouve de la passion dans la création de ses contenus et décide d'aller en profondeur. Donc, elle a tellement aimé les blogs qu'elle a décidé juste d'aller se faire former en étudiant communication et marketing, où elle obtiendra d'ailleurs son bachelor en information et communication en 2015. Donc, elle a dans son parcours travaillé pendant 6 ans comme rédactrice et créatrice de contenu pour de nombreux médias en Suisse et internationaux d'ailleurs, avant d'avoir pris la décision de se mettre à son propre compte. Elle nous racontera d'ailleurs ses raisons, ce qui l'a poussée à se dire « je me lance et je me mets à mon propre compte » parce que moi, ça m'a beaucoup marqué et je pense que tu apprendras aussi de cela et cela pourra te motiver dans tes propres objectifs de vie. Jocelyne Kiambi a une seule mission dans son cœur, qui brûle dans son cœur et dans son business, c'est notamment d'aider et d'accompagner toute la communauté d'afropreneurs ambitieuses ou alors tous les afropreneurs dans le monde à construire une présence en ligne qui leur permettra de monétiser leur talent, de mettre leur talent en valeur. Le plus grand fardeau de Jocelyne, c'est que aussi les afropreneurs puissent mettre leur image. Pour elle, ce qui compte, c'est ton image, l'image de ton business sur les réseaux sociaux. Elle va te conduire, elle va t'accompagner à atteindre le top de ton image sur les réseaux sociaux, de l'image de ton business, de ta marque sur les réseaux sociaux. Elle a eu à le faire pour plusieurs entreprises internationales et je pense que tu vas juste beaucoup apprendre de son parcours. Et si tu es prêt, c'est parti. Alors, bonjour Jocelyne, comment est-ce que tu vas?
Ça va bien, merci, et toi?
Oh, moi ça va. Comment s'est passée ta journée ou alors ta...
Oui, super, franchement, ça s'est super bien passé, merci.
Ok, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à te poser parce que tu as un parcours assez intéressant, je dois dire. Mais avant tout, j'aimerais juste que tu essayes en quelques mots, c'est vrai que j'ai déjà eu à faire une introduction, de juste un peu nous parler de toi, de ton parcours, qui tu es, tes origines aussi, pour que en fait, ceux qui nous écoutent aient une idée plus claire, venant de toi bien sûr, à savoir qui est Jocelyne Kiambi.
Oui, alors je m'appelle Jocelyne, donc je suis originaire de l'Angola, comme tu l'as dit. Je suis née et j'ai grandi en Suisse.
Wow.
Je suis actuellement coach et consultante en communication digitale.
Ok.
Au niveau de mon parcours peut-être professionnel ou de mes études, donc comme tu l'as bien dit, j'ai étudié l'information communication.
Ok.
Et j'ai obtenu mon bachelor en 2015. Et suite à ça, j'ai travaillé un peu par-ci par-là en tant que rédactrice, chargée de communication, jusqu'à me lancer en entrepreneuriat l'année dernière. Voilà.
Wow. Ok. Et je dois dire que quand j'ai eu à causer avec toi, tu m'as fait part du fait que tu... En fait, en Angola, on parle le portugais, c'est ça?
Oui, exactement.
Ok. Mais à côté de cela, tu m'as dit que tu parles aussi lingala, un truc comme ça.
Oui, alors...
Comment? Je suis un peu perdu, en fait.
Oui, alors ce qu'il faut comprendre...
Parce que ça n'a rien à voir avec le Congo, je suppose. Je ne sais pas.
Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Angola, la langue officielle, c'est le portugais.
Ok.
Maintenant, moi, je ne parle pas du tout le portugais.
Même pas un tout petit peu?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout. Je peux comprendre un petit peu, mais c'est vraiment vite fait.
D'accord.
Voilà, en fait, la cause, c'est simplement que moi, je viens du nord de l'Angola. Enfin, mes parents viennent du nord de l'Angola.
Ok.
Et pendant les guerres d'indépendance, etc., mes familles avaient migré au Congo.
Ok.
De toute manière, on a déjà une culture qui s'inscrit dans la culture congolaise, en fait, parce qu'on est du peuple Bakongo.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, c'était assez naturel pour eux de migrer là-bas. Mes familles se sont implantées là-bas. Mes parents ont vécu une partie de leur vie là-bas.
Okay.
Puis, ils sont revenus en Angola. Et c'est de là que c'est du Congo, justement, qu'ils ont beaucoup parlé le lingala. Et qu'ils ont ramené avec eux durant toute leur vie. Donc, ils nous l'ont aussi transmis.
Ah, voilà. D'accord. OK. Donc, vraiment, le portugais, tu parles même pas un peu?
Non, même pas un peu. Non, non.
Wow. OK.
Pas du tout. Je parle le français. Lingala, je parle un peu. Bon, pas forcément très, très bien avec mon accent, mais voilà. Mais je le comprends parfaitement. Et puis après, je parle d'autres langues comme l'anglais, l'allemand, voilà.
OK. D'accord. Est-ce que tu pourrais en fait aller dans le domaine de ton activité? En fait, tu as dit tout à l'heure que tu es consultante, que tu es entrepreneur. Mais pour aller un peu dans le vif du sujet et en profondeur, comment est-ce que tu es arrivée à cela? Parle-nous un peu de tes débuts, en fait. Comme tu l'as dit, tu me l'as dit, quand on a eu à causer que tu as commencé dans le blogging, et ouais. Comment est-ce que la suite s'est passée? Est-ce que c'est dans ce monde-là que tu as créé, en fait, tu as développé ton expérience, ou c'est vraiment, en fait, dans les études que tu as approfondi tes expériences, mm-hmm. en fait? Ouais, qu'est-ce qui a le plus joué, en fait, dans ton parcours pour que tu puisses te lancer?
Alors, comme tu l'as dit, donc moi, j'ai commencé dans le blogging en 2009.
Okay.
Donc, à l'époque, tout ce qui est influenceur, youtubeur, blogueur, c'était pratiquement inexistant. Il y en avait quelques-uns. Et c'est justement là que j'ai découvert le blogging. Et j'ai découvert, en fait, le blogging grâce au mouvement, pour la petite anecdote, grâce au mouvement Nappy.
Donc, mouvement Nappy.
Voilà, c'est-à-dire le retour aux cheveux naturels. Et moi, je cherchais justement des informations là-dessus pour arrêter le défrisage et me mettre aux cheveux naturels.
Okay.
Et c'est comme ça que j'ai découvert les blogs, en fait. Et ça m'a intéressée parce que je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient cette possibilité de rédiger des textes et puis s'exprimer sur divers sujets.
Mmh.
Donc, j'ai décidé de créer mon propre blog aussi. À l'époque, c'était anonyme. Il n'y avait pas une seule photo de moi. Personne ne savait que j'avais un blog. Mais étant donné que j'ai toujours aimé lire et écrire depuis toute petite,
ouais.
On m'a toujours dit que j'avais un bon style d'écriture. Donc, ça me permettait justement d'écrire sur des sujets d'actualité, des sujets de mode. En fait, tout ce qui me passionnait sur le moment, j'écrivais là-dessus.
Ok.
Et petit à petit, mes écrits ont commencé à se faire remarquer sur Internet.
Mmh.
Petit à petit, mes écrits ont commencé à se faire remarquer sur Internet.
Oui.
Voilà, donc j'ai commencé à me faire remarquer sur Internet. Et puis, c'est là que j'ai commencé à construire ma propre communauté autour de mon blog et que j'ai avancé là-dedans. Et
wow.
J'ai commencé à me faire solliciter par des médias pour écrire justement dans le cadre de leur magazine ou webzine.
Des médias internationaux ou sur le plan aussi afro ou...
Oui, c'était surtout sur le plan afro.
Ah, d'accord.
Voilà, parce que mes écrits étaient très, très axés sur la communauté afro. Donc, même quand j'écrivais sur la mode, c'était la mode afro. Quand j'écrivais sur la beauté, c'était beauté afro. Même quand j'écrivais simplement des articles d'humeur, en fait, c'était toujours sur le côté afro. Parce que moi, ce qui m'intéressait justement à cette époque-là, c'était les réalités que je pouvais vivre en tant que jeune femme,
okay.
afro en fait.
Okay.
Mmh. Et justement, j'avais envie d'en parler et c'est comme ça que c'est parti en fait.
Waouh. Et alors, et ça veut dire que donc, c'est au travers de cela que t'es venu donc le désir d'aller en profondeur pour pouvoir commencer une étude par rapport à cela, aller à l'université pour de former davantage?
Alors oui, le désir de me former davantage est arrivé parce que j'avais remarqué que beaucoup de personnes qui étaient aussi blogueuses à l'époque étaient dans la communication.
Ok.
Donc elles travaillaient dans la communication et à travers leurs écrits sur leur blog, elles racontaient un peu leur métier et ça me parlait beaucoup parce que j'arrivais à voir que mes capacité naturelle dans l'écriture, l'écoute active, savoir mettre en avant les autres, etc. Toutes ces capacités-là, je pouvais les remettre à profit justement dans le domaine de la communication.
Communication, ok.
Et donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais étudier ça et en faire mon métier. Voilà.
Ok. Et comment est-ce que cela se passe? Parce que je suppose que Ce n'est juste pas... On ne se lève pas un matin et on dit « je vais me mettre à mon propre compte ». Parle-nous un peu de ta vie en tant que salarié, où tu as eu à travailler pour plusieurs entreprises. Parle-nous un peu de cette transition-là entre la période où tu étais salarié et la période où tu as décidé effectivement de juste te dire « c'est le moment, je dois juste me lancer en fait ».
Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais expliquer ça du mieux que je peux. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours un peu entrepris à côté, que ce soit à côté de mes études.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai toujours fait quelque chose, en fait.
Mm-hmm.
Parce que je suis quelqu'un de très créatif.
Mm-hmm.
Donc, j'ai toujours mille et une idée qui m'arrive et j'ai envie de mettre ça dans la concrétisation, en fait.
Ouais.
Dans le vrai. Donc, pour moi, ça a toujours été naturel de me dire qu'un jour, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, même si, à l'époque, je conceptualisais pas forcément ça comme être entrepreneur, en fait. C'était simplement donner vie à mes idées. Donc, en parallèle au blogging, j'avais déjà lancé un petit magazine en ligne à l'époque qui parlait de mode et de beauté afro. J'avais déjà créé un événement.
Waouh.
Voilà. Mais le fait est que je n'ai jamais osé aller vraiment plus loin avec ça. C'était toujours des actions, on va dire, limitées un peu dans le temps. Voilà. C'était, ou bien des actions uniques dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crée cet événement.
Et puis, c'est bon.
Et puis après, ça s'arrêtait un peu là, en fait.
Ouais,
ça.
Ouais.
Et maintenant, ce qui m'a poussée à vraiment faire le pas et à me dire, OK, maintenant, j'entreprends et je me lance vraiment dans mon activité et je poursuis ça, en fait, pour en vivre, c'est les aléas que j'ai pu rencontrer dans le monde du salariat, en fait, en tant qu'employé.
Ouais.
C'est-à-dire que, déjà, en sortant des études, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage.
Oui.
Ça m'a pris déjà, je crois, une bonne année avant de trouver un stage qui soit réellement... potable, si je peux dire ça comme ça.
Ouais.
Et ensuite, une fois que j'avais trouvé, voilà, j'ai pu évoluer, je suis entrée dans le salariat, j'ai commencé ma vie en tant qu'employée. Et puis, j'ai fait face à des réalités qui m'ont bien montré que, voilà, en tant que femme noire, ici en Europe, c'est très difficile d'évoluer.
Ouais.
Et c'est très difficile d'être perçue à sa juste valeur. Et c'est très difficile, une fois que soit on perd son boulot ou alors simplement que son contrat s'arrête, de retrouver autre chose.
Autre
en tout
chose.
Cas, ça a été mon expérience, en fait, sur le marché du travail. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail.
Ouais.
Et à un moment donné, ben, tu as envie d'évoluer. Je veux dire, l'âge avance. Tu as aussi envie de te stabiliser, simplement, et puis de vivre ta vie. Et tu as besoin d'argent. Tu as besoin de cette stabilité-là que t'offre le monde professionnel.
Ouais.
Donc, quand tu ne trouves pas de travail, qu'est-ce que tu fais, en fait ?
En fait, c'est ça. Et je dois dire que ça, c'est vraiment une réalité que beaucoup d'Africains rencontrent à l'étranger qui sont certes compétents dans leur domaine, mais la vérité, c'est que la capacité d'évoluer rapidement est juste devenue, ou bien devient de plus en plus, je pourrais dire, vraiment compliquée parce que je dois dire que moi aussi, j'ai eu à traverser ce genre de choses dans mon parcours. Je dois dire que ça fait des années que je travaille pour des entreprises, tu vois. J'aime bien mon travail. Mais le problème, c'est juste que je me retrouve toujours à être soit externe ou encore, même si tu travailles, tu vois, tu as toujours l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté pour avoir l'œil sur ce que tu fais, en fait. Tu as toujours l'impression que tu es conscient que tu as de la valeur, mais tu as toujours cette impression que cette valeur n'est pas juste appréciée à son juste niveau, en fait. Donc, c'est juste une réalité. Et c'est ça qui pousse de plus en plus de personnes à se dire que si je me retrouve, par exemple, un jour sans travail, qu'est-ce que ma vie va devenir, en fait? Les gens sont juste... En fait... Beaucoup de jeunes Africains qui ont eu à étudier et qui ont traversé ce genre de situation, pour la plupart que j'ai connus, ils se sont toujours dit qu'il faut que je fasse quelque chose à côté pour couvrir des éventuelles périodes de la vie où je pourrais me retrouver un jour sans travail, en fait. Donc, c'est ça qui pousse les gens à vraiment prendre ce genre d'initiative que nous encourageons, d'ailleurs. Et c'est pourquoi on crée de tels contenus au travers de ce podcast ou bien au travers du fait que j'invite les gens, je cause avec eux pour pouvoir avoir le courage de mettre ces réalités sur la table et d'encourager les jeunes Africains, effectivement, à passer à l'action. Donc, en tout cas, c'est bien déjà de partager cela avec nous. Est-ce que tu pourrais, en fait, nous dire, je ne sais pas trop, une à deux épreuves ou je ne sais pas trop... Si je pourrais parler d'échecs que tu as eu à rencontrer dans ton parcours qui t'ont marqué dans les deux sens, peut-être t'ont vraiment brisé, mais d'un autre côté, t'ont marqué où tu peux dire que voilà, j'ai tiré telle ou telle leçon de ces épreuves, en fait.
Alors, quand tu dis dans mon parcours, c'est-à-dire mon parcours entrepreneurial ou professionnel
Disons que si je parle de deux échecs ou deux épreuves, disons une épreuve ou un échec dans le domaine entrepreneurial, mais aussi dans le domaine personnel de la vie, en fait.
Ok. Alors, de manière générale, je vais revenir en fait sur le fait de sortir des études et de ne pas avoir de travail. Ça m'a marqué et je pense que ça me marquera toujours. Et ça m'a marqué parce que c'est vrai que quand tu es en études, on te vend tes études un peu comme si c'était la clé en fait à tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. Ouais. C'est un peu ton passeport pour entrer dans toutes les portes que tu veux et que grâce à tes études, en fait, tu vas totalement réussir ta vie. Et aussi, en tant qu'Africain ou Afro-descendant, c'est vrai que dans nos familles, on nous vend aussi ça comme étant la solution, en fait, pour avoir une bonne vie. Donc, quand tu t'évolues et que tu écoutes un peu tes parents,
tu ne t'encourages pas trop dans l'entrepreneuriat, en fait.
Voilà, on ne t'encourage pas à entreprendre, on t'encourage à faire des études, on t'encourage à... Parce qu'à la fin de tes études, tu es censé trouver du travail et parce que tu as été à l'université, tu as fait des hautes études, tu vas gagner un gros salaire, tu vas pouvoir acheter... Enfin, tu vas te mettre bien, en fait. Alors, c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages en fait quand tu étudies parce que ça t'apporte beaucoup personnellement. Mais maintenant, dans la réalité, quand tu sors de ces études-là et que tu te retrouves en fait à aller postuler au chômage ou des choses comme ça, ça marque et ça te fait te poser beaucoup de questions en fait. Donc, et c'est la réalité de beaucoup de jeunes. Donc pour moi, ça a été assez difficile de voir que je suis sortie de ces études, que j'ai passé énormément de temps, j'ai sacrifié beaucoup de choses en fait pour être là-dedans et que le résultat, ce soit que j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'un stage. Wow. Donc voilà, donc ça, c'était déjà un premier coup dur. Ensuite, en entrepreneuriat, ce qui m'a vraiment marqué, donc comme j'ai dit, moi, j'ai toujours un peu entrepris sans vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dans une de mes aventures entrepreneuriales, je m'étais associée à une personne. Mmh. Et du jour au lendemain, en fait, la personne a disparu et notre projet s'est effrité un peu comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué et qui m'avait freiné même de continuer dans l'entrepreneuriat.
L'entrepreneuriat. Ouais. Wow. Et aujourd'hui, alors, comment est-ce que tu vis ta vie en tant qu'entrepreneur seul, puisque je suppose que tu le fais seul maintenant?
Oui.
Et parle-nous un peu, effectivement, d'un cas concret, de comment est-ce que tu la vis, ta vie avec de ton activité. Comment est-ce que tu la vis au quotidien? Est-ce que tu as des clients? Comment tu travailles avec tes clients? Est-ce que tu le fais de la maison ou est-ce que tu vas dans... Il y a des sortes de co-working place où tu peux aller, je ne sais pas, si tu te retrouves avec des clients ou tes clients sont peut-être à l'étranger ou ailleurs. Parle-nous un peu de ta vie en tant qu'entrepreneur en temps plein, je dois dire.
Oui, alors, je travaille essentiellement depuis la maison. Wow. Ou alors, de temps en temps, je travaille un peu aussi ailleurs parce que c'est aussi ça, être entrepreneur. Finalement, tu as cette flexibilité.
Ouais.
Ou du moins, dans mon cas, pour le moment, je n'ai pas encore de bureau. Donc, donc mon bureau, c'est un peu là où mon ordinateur peut se poser.
Ouais.
Donc, si une fois, j'ai envie d'aller boire un café ou quelque chose, je vais me poser dehors. Mais essentiellement, c'est depuis la maison. Je travaille surtout en ligne avec mes clients. Donc, je fais surtout du coaching et du travail à distance.
OK. Voilà.
Donc, avec mes coachés, c'est surtout par vidéoconférence, FaceTime, WhatsApp, Skype.
Ouais.
Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Ou alors, quand c'est vraiment du consulting et que là, j'ai beaucoup plus de choses à faire moi, à ce moment-là, voilà, je travaille de mon côté. Et puis, on fait des séances de travail, soit en ligne, soit de temps en temps en présentiel. Donc, je me déplace ou alors la personne se déplace. Voilà.
OK. Est-ce que tu peux essayer d'illustrer un ou deux cas, en fait, de ce que tu traites comme service, en fait, dans ton activité?
Oui.
Par exemple.
Alors, donc le genre de service que j'ai, c'est essentiellement du digital branding, c'est-à-dire de la création de marques digitales, si je peux dire. Okay. Donc, le but, c'est vraiment en fait de créer une image de marque qui soit assez forte et qui soit véhiculée à travers les réseaux sociaux, enfin toutes les plateformes digitales, en fait. Mm-hmm. Et donc, moi, je veille surtout à justement faire cette création de marque, créer cette image de marque dont l'entreprise a besoin, et ensuite à faire en sorte qu'elle puisse être connue à travers les plateformes digitales.
Voilà. Effectivement, parce que c'était important pour moi que tu précises cela, parce que je dois dire que je connais tellement de personnes, et je suis aussi passé par là, qui sont carrément, qui ne comprennent pas du tout ces expressions que tu as, par exemple, prononcées tout à l'heure. Et il faut clairement expliquer, il faut clairement dire à ceux qui nous écoutent ou bien à toute personne qui serait, par exemple, débutant ou débutante, que mon rôle est effectivement de t'amener à être plus visible, d'amener ta marque, d'amener, je ne sais pas trop, peu importe ce dans quoi tu veux te lancer. En fait, Jocelyne t'amène à être plus visible, à fidéliser tes clients, à gagner des clients davantage, à te faire connaître, en fait, dans le monde du digital, dans les réseaux sociaux, en fait.
Voilà, je pourrais même rajouter que pour être plus visible, alors, c'est pas seulement avoir plus de followers ou quoi, mais moi, je travaille vraiment sur l'image que tu vas renvoyer, l'image que tu as envie de renvoyer, afin que ça puisse refléter ta vision. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises, qui créent même, on va dire, des marques, etc., que ce soit dans la mode, la beauté, etc. Mais le problème, c'est qu'elles ont une vision et l'image qu'elles renvoient ne correspond pas à cette vision, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à attirer le client idéal qu'elles aimeraient avoir.
En fait, le client n'arrive pas à s'identifier, en fait.
Exactement. Le but, c'est que le client puisse s'identifier, que le client puisse se retrouver dans cette marque et vraiment s'inscrire dans cet univers de marque et trouver, en fait, ses valeurs, ce en quoi il croit. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça le cœur de l'activité.
Waouh. Et est-ce que tu planifies, je ne sais pas trop, dans ta vie ou plus tard, avec toute cette expérience, est-ce que tu as des ambitions, en fait, pour l'Afrique ou je ne sais pas trop, un jour ou l'autre? Parce que je pense que c'est l'objectif que nous voulons tous atteindre un jour, et même au travers de tout ce que je fais, de ces émissions, de pouvoir apporter un plus, de pouvoir apporter un plus pour le développement de notre continent, de l'Afrique. Mm-hmm. Et est-ce que toi, tu as de telles ambitions, ou est-ce que tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans par rapport à ce continent, en fait?
Alors, oui, j'ai des ambitions, bien sûr, par rapport au continent. Déjà, je pense que l'univers du digital, ça représente vraiment une très, très grosse opportunité de développement pour les Africains.
Ouais.
Et du coup, pour les entreprises africaines. Et je pense qu'elles doivent savoir aussi comment appréhender ce monde-là et comment se positionner dans ce monde-là afin qu'on puisse vraiment voir quel est leur potentiel, quelle est leur valeur et qu'elles puissent se vendre en fait à travers le monde. Et ça va se faire par le digital en fait, sans forcément avoir besoin de s'exporter de la manière classique dont on a toujours vu. Donc, étant donné que moi je suis dans ce domaine-là, bien sûr que j'ai envie d'accompagner des entreprises africaines, des entrepreneurs africains dans ce processus-là, en fait, de gagner de la notoriété et puis de se faire connaître. Donc, forcément, oui, c'est dans mes ambitions.
Ok.
Maintenant, on y va étape par étape.
Chez nous, on dit qu'on y va vraiment mollo, mollo.
Mollo, mollo, voilà.
Ok. Alors, quelles sont tes... Est-ce que tu peux nous parler un peu... Bon, là, je vais un peu sur le plan personnel. Mm-hmm. Quelles sont tes routines, par exemple, au quotidien? Qu'est-ce que Jocelyne fait quand elle se réveille? Est-ce qu'elle lit un livre? Parce qu'on nous a donné une image de l'entrepreneur, en fait, qui doit se réveiller à 4 heures, qui doit dormir à 2 heures, ou je ne sais pas trop, il doit lire 10 livres par jour. On nous a tellement donné une ligne à suivre que j'essaie, en fait, de pouvoir vraiment mettre les cartes sur la table et d'élaborer et de vraiment savoir quelles sont les réalités. Est-ce que vraiment c'est ce que l'entrepreneur fait, en fait?
Oui, ouais. Alors, moi, je ne vais pas te cacher que J'ai aussi essayé tout ça, de correspondre à cette image que le matin, tu es censé lire quelque chose d'inspirant, ouais. etc., etc. Donc, j'ai essayé aussi les routines où tu te réveilles à 4h30 du matin
ouais.
pour méditer, faire ton sport, etc. Et on ne va pas se mentir, j'ai vite abandonné, même si j'essaye quand même, franchement. Ouais. Parce que je pense quand même que ce qu'on nous dit, ce n'est pas faux. Il y a ouais. vraiment beaucoup de vérité là-dedans. Mmh. Mais après, le problème, c'est d'être discipliné.
Effectivement.
Voilà. Donc moi, je me lève en général entre 6 et 7 heures mmh. le matin. Ensuite, la première chose que je fais, c'est de lire mon plan dans l'application Bible. Voilà.
OK.
Donc, le plan qui est en cours, la thématique qui est en cours, ben, je lis ça. Ensuite, je passe un temps quand même à méditer, prier, parce que je pense que c'est quand même super important pour se mettre en condition
ouais.
Avant de commencer sa journée. Surtout mm-hmm. quand on est entrepreneur et particulièrement solopreneur, c'est-à-dire le fait d'être seul.
Seul.
ouais. En tant qu'entrepreneur, on n'a personne en fait, pour se booster, on n'a pas cette équipe autour de nous pour s'encourager les uns les autres. Donc, je pense que le faire à l'aide du spirituel, dans le positif, bien sûr, c'est super important. Donc, c'est ce que je fais le matin. Et puis après, voilà, la routine, douche, je m'habille, je me prépare. Alors par contre, c'est pas parce que je travaille depuis la maison que je reste en pyjama toute la journée. Ça, je pense que c'est important de le dire. Parce voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu travailles depuis la maison, ben ça y est, c'est la fête. Voilà.
C'est du laisser-aller.
C'est du laisser-aller, t'es ouais. en pyjama et tout et tout. Non, j'essaye quand même, même si je vais pas forcément m'habiller en tailleur ou quoi, mais de m'habiller quand même un minimum, de me coiffer un minimum, peut-être de temps en temps, peut-être me maquiller et tout, de vraiment me mettre en condition comme quand je vais en entreprise, en fait.
Ok.
Et puis, ensuite, je commence à travailler sur les projets qui sont en cours.
Ok.
Et en général, je fonctionne avec des to-do list, comme on dit. Donc, mm-hmm. Voilà, j'ai mes listes de ce que je dois faire ce jour-là. J'essaye de ne pas programmer plus de 3 tâches dans la journée mm-hmm. parce que je pense que quand on est indépendant comme ça, on a envie de trop faire et de tout faire.
Mm-hmm.
Bon, déjà, on doit tout faire, mais on a envie de trop faire. Ouais, on veut trop faire.
Trop quand perfectionner les choses.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, t'arrives pas, en fait. Au début, j'avais des listes longues comme mon bras. Et finalement, maintenant, j'ai trouvé la solution que 3 tâches par jour, si j'arrive déjà à faire les 3, c'est déjà bien. Quoi.
C'est déjà bien, quoi.
Ouais. Et puis, après, peut-être au niveau des heures de travail, est-ce que je travaille 8 heures par jour ou plus ? Je travaille plus. Je travaille bien plus que 8 heures par jour, ça c'est clair.
Ok.
Il y a des journées où je peux commencer à... En général, j'essaie de commencer à 9 heures le matin, mais je vais finir à 21 heures, 22 heures, 23 okay. heures même, si j'ai encore une idée.
Ouais.
Donc voilà, ouais.
Mais si c'est que tu travailles alors donc apparemment plus que lorsque tu n'étais salarié, où est-ce que tu trouves donc en fait ton avantage en cela, en fait? Est-ce que c'est juste une affaire d'argent ou de liberté géographique? J'avais dit le fait d'entreprendre, en fait, tu mm-hmm. vois. Comment est-ce que toi, est-ce que tu vois ça, en fait?
Alors, c'est une bonne question.
Parce que beaucoup de gens se disent que si j'entreprends, peut-être je vais travailler moins, j'aurai plus de vacances. Mais comment est-ce que la réalité est? Puisque je me rends compte, au travers de ce que tu dis
ouais.
et de ce que j'ai entendu de plusieurs personnes, mm-hmm. que la réalité, c'est autre chose, en fait.
Alors, la réalité, c'est pas réellement autre chose.
OK.
Moi, je veux préciser que cette image qu'on voit de l'entrepreneur qui travaille 4 heures par jour et puis qui est le reste de la semaine en vacances, mm-hmm. ça existe. Mais pour arriver là, tu dois travailler énormément.
Ouais.
Tu vois. Et c'est pour ça que, justement, je fais des journées de 9 heures, 23 heures. Parce que justement, le but, c'est de mettre en place des choses, mettre en place des jalons, mettre en place des systèmes qui vont un jour me permettre, peut-être dans une année, voilà, ouais. des mécanismes qui vont me permettre peut-être dans une année ou dans 6 mois, si Dieu fait grâce, de pouvoir justement avoir des semaines de 4 heures et d'automatiser mon business.
Mon business, ouais.
Voilà. Après, là où moi je trouve l'avantage, c'est que je travaille pour quelque chose dont je suis passionnée. C'est-à-dire que moi, mes clients, les gens qui viennent et que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont des projets que je trouve passionnants, en fait.
Ouais.
C'est des personnes qui sont au point zéro et qui viennent avec un projet, qui m'en parlent, alors que c'est seulement au stade d'idée. Et on en parle ensemble. Et ensuite, je vais accompagner la personne. On va travailler pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant même peut-être un peu plus. Mm-hmm. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le projet est en train de prendre forme.
Ouais.
Et jusqu'à ce que ce soit commercialisé, que vraiment ce soit concret. Donc, en même temps que j'entreprends pour moi lorsque ces clients viennent chez moi, ouais, ces clients-là aussi entreprennent. Donc, tu les accompagnes aussi dans leur aventure à elles et tu as vraiment un réel impact là-dedans, tu vois. Alors que quand tu es salarié, alors, je ne suis pas là pour dire du mal du salariat, au contraire, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es salarié, tu débarques dans une entreprise et l'entreprise a déjà un cadre. Donc, la manière dont ils font les choses, ils font comme ça depuis des années.
Ouais.
Et c'est pas parce que toi, tu es arrivé avec tes idées, avec ta créativité, que tu vas vraiment faire une différence, en fait. Enfin, voilà, tu es remplaçable, en fait,
ouais,
c'est ça.
Ouais, tu es remplaçable et que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, il y a ce cadre à suivre que tu vas
exactement
forcément, sur lequel tu vas forcément t'aligner, en
tout
fait.
Le temps, même ouais, si tu es créatif comme pas possible, mais tu devras t'aligner avec l'image de marque, avec ouais, la vision
ouais,
de cette entreprise-là.
Ouais.
Or que là, au jour d'aujourd'hui, quand j'accompagne des gens, oui, ils ont leur vision, mais je les accompagne justement à former cette vision, en fait. Je suis là, en fait, pour vraiment m'imprégner de leur vision et puis ajouter aussi ma patte, ajouter
ouais,
quelque chose de plus.
Mmh.
Et moi, ça m'inspire beaucoup plus, en fait, de travailler avec des personnes comme ça, que je vois vraiment monter petit à petit. Ou alors des personnes, tu arrives en cours de route, en fait,
ouais,
et tu les amènes à destination, en fait.
Effectivement.
Donc, voilà.
Waouh, super. Et tu as parlé tout à l'heure que tu te lèves et tu lis... tu as parlé des versets bibliques, je crois, où
oui,
tu lis je crois, l'actualité.
Ouais, l'application dans la Bible. Ouais.
Mais est-ce qu'en dehors de cela, tu as des livres dans le domaine, en fait, du business pour te booster aussi, que tu lis et que tu pourrais, par exemple, recommander à tout entrepreneur qui veut se lancer?
Mm-hmm.
Par exemple, tu pourrais peut-être nous citer 2 livres.
Oui, alors j'ai 2 livres que je peux recommander. Le premier s'appelle « Le petit manuel de l'entrepreneur », si je ne me trompe pas. Ça a été écrit par Jessica Mbangila, qui est congolaise d'origine.
OK.
Et en fait, c'est une fille que je connais.
Donc, ah, personnellement.
Voilà, que je connais personnellement.
OK.
Et du coup, j'avais lu son livre parce qu'elle est entrepreneur depuis quelques années. Et elle
ouais,
m'a toujours énormément inspirée. Donc, elle est plutôt dans le domaine vestimentaire, ce qui est mode, etc.
Pour femmes ou pour tout le monde?
Pour tout le monde.
Ah, d'accord.
Pour tout le monde. Mmh. Et voilà, donc son livre, il est super parce qu'il est vite lu. Comme je le dis tout le temps, j'ai lu son livre en 2 heures, je crois.
Waouh, ça veut ouais, dire que le livre n'est pas très volumineux.
Non, alors, il n'est pas volumineux, il est assez petit.
Ouais.
Je crois qu'il fait moins de 100 pages ou tout juste 100 pages, je ne sais plus.
Ouais.
Mais en tout cas, ça va droit au but. Donc, il y a vraiment tout ce que tu dois savoir en tant que personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ok.
Et c'est vite lu, le langage est facile, donc je pense que ça vaut la peine de le lire. Et le deuxième livre, c'est « La chèvre de ma mère » de Ricardo Cagnama. Voilà.
Waouh, c'est qui l'auteur encore?
Ricardo Cagnama.
Ok.
Ouais. Et ce livre, je le trouve mais génial. C'est vraiment sur l'indépendance financière, en fait.
Ok. Je trouve le titre quand même un peu amusant.
Ouais. Mm-hmm. Et,
la chèvre de ma mère.
La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. C'est sur l'indépendance okay, financière. Puis peut-être pour faire un bref résumé. Donc, Ricardo Cagnama, c'est un entrepreneur très, très connu en Afrique.
Wow.
D'origine anglo-congolaise.
OK.
Et il a débuté avec un capital de $50.
Wow. En Afrique?
En Afrique. Ouais.
Ah, d'accord.
En Afrique. Et il est toujours en Afrique et il est millionnaire aujourd'hui.
Il fait dans quel domaine exactement?
Je crois qu'il est dans la pharmaceutique ou des mmh, choses comme ça. Ouais. Mais il a aussi une école, justement, qui accompagne... les gens à devenir entrepreneurs. Donc, voilà, je suis en train de faire de la pub, mais... mais bon,
okay,
voilà, c'est une ressource super utile. En tout cas, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, si vous avez l'occasion de taper sur Google Ricardo Cagnama, vous allez découvrir. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son parcours. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, africain sur le continent, c'est juste génial, quoi. Il est vraiment parti de zéro et il a tout construit avec son propre capital.
Wow.
Voilà. Et donc là, en fait, il apprend justement aux Africains comment utiliser l'épargne pour être dans l'indépendance financière. Voilà.
Wow, super. En tout cas, il faudra que tu me passes encore ces deux titres avec les auteurs pour que je puisse le mentionner, en fait.
Avec plaisir.
Effectivement, dans cet épisode. Donc, en fait, c'est juste très intéressant ce que tu dis. Et je pense que ce soit ces livres que tu as recommandés, ton expérience que tu as pu partager avec nous, je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes. Et vu qu'on tend déjà vers la fin de cette émission, l'avant-dernière question que j'aimerais bien te poser est de savoir si il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient sortir de cette conversation avec un message, avec une parole encourageante, un message encourageant peut-être. J'aimerais que sur la base de ton vécu, que tu sois, que tu essayes simplement de donner deux ou trois conseils à ces personnes qui nous écoutent, qui ont des projets à cœur et veulent démarrer, mais sont encore retenus par beaucoup de facteurs. Ça peut être la peur d'échouer, ou encore ça peut être, je ne sais pas trop, la peur de ce que l'on va dire, que l'entourage va dire, la famille va dire, les amis vont dire, si jamais ça rate, ou je ne sais pas, quelques raisons quelconques que ça pourrait être, mais tu puisses juste donner deux ou trois conseils, puisque toi, tu as fait le pas, à tout entrepreneur ou à toute personne qui aimerait démarrer quelque chose, une activité qui brûle dans son cœur et pour laquelle il a une passion, mais n'a juste pas le courage d'agir.
Alors, je dirais d'arrêter de se négliger.
De se négliger.
De se négliger et de se sous-estimer, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà. Et en fait, mais vraiment de se négliger. Parce que je pense que la négligence, c'est pas juste physique, hein. Mais des fois, on a tendance à négliger la personne qu'on est et les talents qu'on a. Et moi, je pense réellement que toute personne a des dons, peu importe ce que c'est. Ça peut, c'est pas forcément, les dons, c'est pas forcément ce qu'on a appris à l'école, qu'on nous a montré qu'il fallait valoriser le fait que tu sais parler français, que tu sais parler anglais, que tu sais que tu as telle ou telle compétence. Non, il y a des dons qui sont aussi simples que le fait de savoir écouter les gens.
Ouais.
Et de savoir reformuler leurs pensées ou bien de donner de bons conseils. Et ça, c'est déjà un talent que tu peux monétiser, en fait.
Okay.
Et donc, tu peux entreprendre sur cette base-là.
Mais il faut déjà pouvoir trouver son don, en fait.
Voilà. Donc, il faut arrêter, justement, de se négliger et de se sous-estimer, en fait, dans ce qu'on sait faire.
Okay.
Parce que moi, ça a été aussi mon vécu. Je pense que dans ce que je fais aujourd'hui, c'était tellement naturel pour moi, en fait, de faire certaines choses...
Ouais.
Que je ne pensais pas que je pourrais gagner un franc là-dedans.
Et c'est vrai que toi, tu as simplement commencé dans le blogging, par exemple.
Par écrire.
Et par écrire, en fait.
Et j'ai toujours écrit toute ma vie.
Sur des choses qui t'es passionnée, en fait.
Voilà. Ouais. Et j'ai toujours écrit toute ma vie. Depuis toute petite, j'ai écrit des histoires, j'écrivais des lettres. Petite anecdote, j'écrivais des fois des lettres pour mes parents, parce que mes parents ne sont pas de langue française à la base. Donc, des fois, il y avait des lettres administratives. J'avais 9 ans, c'est moi qui écrivais.
Waouh.
Donc, pour dire qu'il ne faut pas négliger en fait, ces choses naturelles qu'on sait faire, ces dons naturels, ces choses pour lesquelles les gens t'ont toujours fait des compliments, t'ont toujours dit que tu sais faire ça très bien, pour les choses pour lesquelles on vient tout le temps te solliciter, ne les néglige surtout pas, en fait. Parce que c'est peut-être là, justement, que se trouve le trésor que tu dois utiliser pour entreprendre et débloquer peut-être ta destinée. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne ou un message que je donne. Et ensuite, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que je pense que l'échec, c'est aussi ce qui nous apprend et qui nous permet de nous perfectionner. Chaque fois que tu échoues, si tu te relèves et que tu viens réessayer après, tu t'améliores en fait jusqu'à ce que tu aies les compétences nécessaires pour pouvoir y arriver. Et finalement, ben, je dirais qu'il faut, il faut simplement essayer, en fait. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on ne vit qu'une fois.
Waouh.
Et voilà, comme il est écrit dans cette petite Bible que j'aime bien lire, ben, c'est quand même écrit aussi qu'il faut, pendant notre passage en fait, sur Terre, il faut faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'il n'y aura rien dans le séjour des morts, en fait. Donc, ce n'est pas le jour où tu seras mort que tu auras la possibilité d'entreprendre. Si tu as envie d'entreprendre aujourd'hui, tu as une idée, ben vas-y, fais-le, lance-toi. Même si tu n'as pas grand-chose, même si tu as zéro franc, il y a toujours moyen en fait, d'entreprendre même avec zéro franc. Et j'en suis la preuve vivante. Je n'ai pas entrepris en ayant des investissements ou quoi que ce soit. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'on a des dons et des talents pour qu'on puisse justement entreprendre. En fait.
Wow, super. En tout cas, Afropreneur, moi, je retiens simplement que tu dois agir, tu dois passer à l'action. Ne néglige pas tous les compliments que ton entourage peut te faire ou peut-être tu as eu à traverser des situations où tu as débloqué, tu as trouvé des solutions à des problèmes, tu as développé des talents peut-être dans ton entourage et ils t'ont fait des compliments sur des domaines bien précis. Alors, ne néglige pas ces choses-là parce que cela pourrait être en fait la clé qui va débloquer ta destinée. Vraiment, j'ai beaucoup appris au travers de cette émission et de cette conversation, pardon. Et pour finir, j'aimerais te demander, Jocelyne, si tu es certainement sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent peut-être aller plus loin avec toi ou qui veulent connaître un peu plus sur toi, qui veulent apprendre un peu plus sur toi, de savoir où te trouver en fait. Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te trouves en fait dans le monde du digital?
Oui, alors on peut me retrouver principalement sur Instagram, je suis très active là-dessus. Mon Instagram c'est Hello Jocelyne, Jocelyne avec un C et un Y et un E à la fin. Voilà. J'ai mon site internet aussi pour voir mes prestations ou bien simplement me contacter aussi. Hein.
Ok, et c'est quoi le site internet?
HelloJocelyne.com.
Ok.
Et puis très bientôt sur YouTube.
Waouh! Ah, tu comptes commencer sur YouTube aussi?
Oui, exactement. Enfin, je vais présenter du contenu sur le digital, etc. Marketing digital, communication digitale sur YouTube. Voilà.
Waouh! Super, super, super. En tout cas, on a beaucoup appris et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que tu as beaucoup appris au travers de cette émission et que tu vas pouvoir mettre toutes ces choses que nous avons pu partager, que Jocelyne a pu partager avec toi, avec moi, avec nous, en pratique. Et si tu réfléchis encore, si tu hésites encore, vraiment, je t'encourage à reconsidérer tes projets pour cette année. Je t'encourage à reconsidérer tous tes objectifs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le business. Reconsidère-les et mets-toi effectivement sur les pas de l'action et passe simplement à l'action parce que tu n'as rien d'autre à faire que d'essayer. La seule chose que tu pourras, par exemple, dire que tu regrettes, c'est que tu n'auras pas essayé. Et Jocelyne a dit que lorsque tu mourras, lorsque tu ne vivras plus, en fait, tu n'auras plus l'opportunité d'essayer quelque chose, en fait. Et tu pourrais courir le risque de simplement regretter de ne pas avoir utilisé ton plein potentiel. Alors, j'espère que tu as appris et on se dit à la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente journée ou soirée selon le lieu ou le pays dans lequel tu te trouves. Et prends soin de toi. Ciao les amis. Hey, 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 Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.